Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bélita de Bangy.
Bonjour Isabelle Garcia-Chopin. Merci de venir nous voir à Radio Présence pour nous présenter votre dernier livre, Dessine un sourire sur ton visage.
Bonjour Bélita et merci de m'accueillir ici à Radio Présence.
Alors écoutez, moi je suis vraiment enchantée que vous veniez nous présenter ce livre, car bien sûr je l'ai lu, et je me suis aperçue que c'était un joli cadeau pour la rentrée scolaire, ou la rentrée, puisque certaines personnes commencent aussi la rentrée en septembre, parce que ce livre permet de trouver une certaine sérénité, et puisqu'il s'appelle « La méditation pas à pas ». Alors, si c'est un livre qui a été écrit par les éditions, qui a été imprimé par les éditions Priva Jeunesse, en fait, c'est un livre qui n'est pas réservé qu'aux enfants, puisque les enfants ne pourront pas seuls pratiquer la méditation, qui est le thème principal de ce livre. Il leur faut un accompagnement de parents, de grands-parents, d'enseignants. Donc, je trouve que votre livre est vraiment très positif parce qu'il va permettre à ceux qui le lisent et à ceux qui pratiquent les exercices de trouver une certaine sérénité. Alors, je voudrais vous demander, Isabelle Garcia-Chopin, comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre pour les enfants, les parents, les grands-parents et les enseignants ?
Alors, la méditation, c'est avant tout une pratique que je connais depuis 2004, en fait. J'ai découvert la méditation d'une manière laïque. Et puis après, la philosophie bouddhiste est arrivée dans ma vie et j'ai commencé à suivre des enseignements. Et là, évidemment, donc, lorsqu'on suit des enseignements bouddhistes, la méditation est évidemment très, très, très importante. Et donc, petit à petit, j'ai continué à méditer et puis j'ai pris goût parce que c'est devenu une nécessité pour moi, en fait, de méditer au quotidien. Et donc, j'ai eu l'envie d'écrire un livre sur la méditation. Au début, ça n'a pas été quelque chose d'aussi évident que ça. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais écrire un livre sur la méditation pour les enfants. Ça faisait partie d'un autre projet en édition jeunesse. Et puis, c'est surtout un jour, en méditant sur l'une des paroles qu'on en attribue à l'actuel Dalai Lama, qui dit « Si l'on apprenait la méditation aux enfants, la violence et les conflits disparaîtraient dans le monde en une seule génération », que j'ai eu l'élan, justement, à contribuer à ce noble souhait. Et effectivement, si les enfants apprennent très tôt à s'intérioriser, à faire le calme par un petit travail méditatif, s'ils arrivent à avoir une meilleure sérénité, une plus grande paix intérieure, qui sont les qualités naturelles de notre esprit. Notre esprit n'est pas dans l'agitation, c'est pas sa qualité naturelle. Donc effectivement, si je suis en paix en moi-même, je verrai l'extérieur d'une manière beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus empreinte de quiétude, voilà. Et donc ça a été un petit peu le fil rouge où j'ai eu l'élan justement de proposer ça pour les enfants.
Et pour écrire ce livre. Alors, je reprends vos propos, vous dites que c'est en 2004 que vous découvrez la méditation, mais comment l'avez-vous découverte ?
Tout simplement d'une manière très laïque. Alors ça, c'est une petite anecdote. En fait, c'est ma nièce qui, à l'époque, était âgée de 7 ans. Voilà, j'allais la voir et qui m'a dit un jour, « Tiens, viens Tati, viens dans ma chambre, on va s'asseoir. » Et puis on s'est assis en tailleur. Et puis là, on s'est mis à fermer les yeux. Et j'étais très étonnée que, pour cet âge-là, elle fasse ça. Et puis voilà, c'est parti comme ça en fait. Et bon, après moi c'est vrai que j'ai une nature contemplative, donc c'est vrai que j'aime bien m'asseoir et puis voilà, essayer d'être un petit peu dans une sorte d'harmonie ou de contemplation avec ce qui m'entoure, si vous voulez. C'est quelque chose qui est naturel chez moi. Et voilà, comme ça, c'est venu un petit peu. Je me suis intéressée, voyant un petit peu exactement qu'est-ce qu'on entendait par méditation. C'est pour ça que je précise laïque, parce que après, lorsque j'ai découvert la méditation bouddhiste, on rentre dans un autre univers. Mais c'est quand même intéressant, parce que c'est un petit peu la prémisse, justement, arriver à faire le calme mental, à retrouver vraiment cette quiétude qui est vraiment... qui est naturel pour notre esprit, en fait.
D'accord. Écoutez, je trouve très intéressant ce que vous racontez. Je trouve qu'en plus, c'est déjà une belle histoire qu'une petite fille de 7 ans arrive à enseigner à sa tati la méditation. Ça, c'est déjà en soi déjà un conte presque.
Oui, parce qu'en fait, finalement, c'est très simple la méditation. On s'en fait un monde, peut-être parce qu'elle nous est mal présentée. En fait, il suffit tout simplement de s'asseoir avec le dos droit. Voilà, c'est très important parce que on peut faire l'expérience, hein, lorsque vous avez, au bout d'un moment, lorsque vous êtes assis depuis un petit moment, on a tendance un petit peu à s'avachir et on a notre esprit qui est peut-être moins alerte, on va vite peut-être être happé par quelque chose qu'on voit, on va vite être distrait. Alors qu'à partir du moment où juste le simple fait de se redresser, déjà il y a quelque chose qui change et puis ça permet à l'énergie de mieux circuler. Et puis c'est comme quelque part si on disait à notre esprit, ça y est, maintenant, voilà. On se pose, c'est un moment que je prends. Et donc voilà, le dos droit, et puis juste porter son attention sur les bruits extérieurs, et puis juste sur le mouvement de notre respiration. Rien que ça, on peut faire ces petits retours comme ça pendant 2-3 minutes. C'est une manière de retrouver un alignement, par exemple, avant de poursuivre une activité.
Alors, en fait, cette méditation... En principe, le livre est dédié aux enfants. Vous l'avez déjà fait pratiquer à des enfants en appuyant sur votre livre ?
Oui, tout à fait. L'année dernière, notamment, j'ai commencé à mettre dans une école primaire, pas très loin de chez moi, au nord de Toulouse. On a mis en place dans une classe pilote, justement, des élèves de CE2. Donc, on a fait plusieurs séances de méditation, donc d'initiation, je dirais, avec le maître. Et c'est vrai que les enfants sont en demande. Voilà.
Les enfants sont en demande.
Les enfants sont en demande parce que, alors bien sûr, il y a quoi, à peu près 25 élèves. Alors, c'est vrai que vous en avez toujours qui sont peut-être un peu plus en retrait, d'autres qui ont du mal à rester immobiles parce que vite, ils vont s'agiter. Parce qu'en fait, selon certaines études, un enfant reste attentif pas plus de 7-8 secondes. Donc, vous voyez, ça va très vite. Et alors, c'est très amusant parce que quand j'ai commencé à faire cette classe pilote, une des premières choses que j'ai demandé aux enfants, c'est « Qu'est-ce que pour vous la méditation ?» Et alors, j'ai recueilli comme ça des petits florilèges de ce que me disaient certains enfants, notamment « Ah, mais la méditation, c'est fermer les yeux et ne plus rien faire. »
Donc, ils en avaient déjà entendu parler.
Ils en avaient déjà entendu parler. Certains l'avaient pratiqué avec leurs parents.
Ah, d'accord.
Donc, voilà, c'était pas quelque chose qui était si étranger que ça.
Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment vous avez fait pour convaincre l'école de faire un cours de méditation, de proposer de la méditation à des enfants. Parce que ce n'est pas évident, c'est hors programme, ça ne fait pas encore partie de l'éducation nationale, même si je pense que ça serait une excellente idée. Comment avez-vous
Alors,
procédé ?
C'est hors programme, c'est vrai. Alors d'abord, c'est dans une école de la République, c'est une école laïque.
Oui.
Il se trouve que je connais l'instituteur.
D'accord.
Qui pratique lui aussi la méditation, voilà, et qui me disait toujours, voilà, j'aimerais pouvoir faire de la méditation aux enfants, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et voilà, on était avec les éditions Priva dans l'écriture, en fait, de ce projet. Et voilà, une fois que le livre a été terminé, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, si tu veux... j'ai fait ce livre, j'ai écrit ce livre et j'aimerais bien justement faire une classe pilote pour voir un petit peu comment les enfants se comportent avec les différentes pratiques que je peux proposer. Et c'est parti comme ça et ça s'est fait d'une manière très naturelle, tellement que ça a été très positif.
Ça a duré combien de temps ? Vous avez fait combien de séances avec les enfants ?
On a fait une dizaine de séances avec les enfants.
D'accord.
Sur l'année scolaire et là on va redémarrer avec une nouvelle classe donc de CE2.
Bravo.
Dans quelques semaines, on va démarrer. Entre-temps, j'ai initié aussi ce qu'on appelle des goûters zen, notamment au musée Georges Labitte à Toulouse, dont l'idée, c'était très simple, hein, le goûter. Voilà, il y a quelques quarts d'heure, je crois un petit quart d'heure, donc deux petits quarts d'heure de pratique avec les enfants. Donc, on est vraiment dans l'initiation, c'est-à-dire, c'est... voilà, leur expliquer un petit peu le livre, leur montrer le livre, et puis après, voilà, tout simplement, la posture,
le
souffle. Vraiment, c'est les fondamentaux qu'on va retrouver dans toute méditation, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. C'est pour ça que le livre, en fait, c'est un pas à pas aussi bien pour l'enfant et l'adulte qui va l'accompagner.
Alors, tout ce que vous dites est passionnant. Je trouve qu'il faudrait le développer dans d'autres écoles. Il faudrait aller voir le recteur de l'académie et lui dire de venir vous filmer pour donner des idées aux autres écoles.
Alors, je sais qu'il y a des associations qui œuvrent justement pour que la méditation vienne à l'école, justement avec la méditation dite de pleine conscience. Ça se fait dans certains établissements scolaires. Voilà, ce sont des initiatives qui se font petit à petit. Ça viendra, il faut laisser le temps au temps.
Oui, mais les propos du Dalai Lama sont quand même importants. Plus de guerre, plus de violence, si les enfants pratiquaient la méditation. Donc, c'est pas neutre, c'est pas qu'une gymnastique de l'esprit ou une gymnastique du corps. Donc, il faudrait le développer assez rapidement, si c'était possible.
Voilà, mais écoutez, voilà, j'espère qu'on nous entend.
Voilà, moi aussi. Alors, Isabelle Garcia-Chopin, j'aimerais que vous me parliez un petit peu du Bouddha Shakyamuni qui est à l'origine de la méditation. Parce que le mot méditation, c'est un mot maintenant qui est quand même assez à la mode, ça c'est vrai. Et on ne sait pas l'origine de la méditation. Et comme je sais que vous avez beaucoup étudié sur ce qui se passait dans ces pays et sur le bouddhisme, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu les racines de la méditation pour que les gens, en même temps qu'ils pratiquent, puissent donner puissent avoir quelques précisions sur les origines de la méditation.
Alors, c'est une question qui est très intéressante et très pointue. Exactement, d'après les connaissances, d'après le peu que je sais, on ne sait pas vraiment si c'est le Bouddha qui est à l'origine de la méditation, en tout cas ce qu'on appelle Bouddha Shakyamuni, qui est le Bouddha historique de notre ère, parce qu'il y avait d'autres Bouddhas. On a retrouvé des traces sur la méditation au niveau de l'Indus, donc qui est un peuple qui est très très ancien par rapport à l'Inde. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on pourrait dire que le Bouddha Shakyamuni a contribué à répandre, on va dire, la méditation avec ses enseignements. Mais je l'attribuerai pas forcément vraiment à lui, forcément. En tout cas, d'accord. On n'a pas vraiment de... C'est difficile parce que c'est déjà plus de 2500 ans en arrière, hein, Bouddha Shakyamuni. Donc c'est difficile de trouver vraiment des preuves matérielles qui attestent que c'est lui qui a créé la méditation. En tout cas, il faut rendre à César ce qui est à César. Bouddha, Shakyamuni, par la découverte de son enseignement, qui repose en grande partie sur la méditation, c'est vrai qu'il a contribué, bien sûr, à répandre la méditation telle que lui, il la propose.
D'accord. Et alors, c'est arrivé en Europe à peu près à quelle période, la méditation ?
En fait, la méditation, finalement, c'est une pratique qui est très ancienne aux formes nombreuses en Occident, parce que, vous voyez, Socrate... déjà pratiqué la méditation. Il paraît qu'il pratiquait la méditation debout. Donc, si vous voulez, la méditation, ça dépend. Ce qui est important, c'est de revenir un petit peu à l'étymologie. En grec, ça veut dire mélété, qui est un entraînement, qui est un exercice. Donc, on pourrait dire effectivement que la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Dans le but, si vous voulez, d'arriver à une maîtrise de l'esprit. Et quand je dis maîtrise, c'est pas dans le sens de dominer son esprit. C'est un petit peu comme, par exemple, un artisan qui fait de l'argile et qui va, suivant l'argile qu'il va prendre, suivant les outils qu'il va prendre, il va arriver à modeler son bout d'argile et en faire un objet d'art. Et en fait, voilà, c'est ça. La méditation va nous permettre, si vous voulez, d'arriver à notre esprit à ce qu'il soit beaucoup plus... malléable, mais malléable dans le bon sens, malléable dans le positif. C'est-à-dire, par exemple, si je vous demande d'imaginer une pomme, une belle pomme, il se peut qu'au début vous ayez un peu de mal à la visualiser, et puis quand vous allez, vous voyez bien la pomme, au bout d'un moment, même très vite, au bout de quelques secondes, vous allez voir que votre esprit, il va partir sur autre chose. Il y a une autre pensée qui va venir, une autre image. Donc, ça montre bien que votre esprit n'est pas stabilisé encore. Et alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de maîtriser son esprit, de le rendre beaucoup plus stable ? L'intérêt, c'est justement ça va nous amener à être moins dans la réaction, dans notre quotidien, ça va nous amener à être beaucoup plus posés, à faire des meilleurs choix, à retrouver un discernement, et puis surtout à retrouver cette quiétude, ce calme et cette clarté qui est vraiment propre à l'esprit. Parce qu'en fait, je crois profondément que nous avons tous, et peu importe nos origines, notre culture, nous avons tous ce don d'être calme, immobile et silencieux. Voilà, mais on l'a oublié ou on nous l'a...
Voilà, on ne nous l'a pas enseigné du tout.
On nous l'a pas enseigné, et surtout dans nos modes de vie qui sont très, très... qui sont dans le faire et non dans l'être.
Dans le faire et dans le speed.
Voilà. Et en fait, je pourrais dire, pour conclure sur qu'est-ce que la méditation, je dirais que comme notre corps a besoin de repos, eh bien, notre esprit a besoin de calme. Parce que c'est ça, c'est une de ses qualités naturelles.
C'est voilà. Toute une philosophie que vous nous proposez.
C'est toute une philosophie, exactement.
Oui.
Mais en même temps, ce que j'ai voulu faire pour les enfants, c'est vraiment une approche très ludique et,
oui,
et très simple, parce que l'idée... En fait, mon idée, ce n'est pas d'instruire, c'est d'ouvrir le début d'un chemin, un pas à pas.
Voilà. Oui, c'est d'ailleurs dans le titre, c'est bien
voilà.
Choisi, oui. Oui,
tout à fait. Et si après, effectivement, les enfants, vous rendez compte, moi j'aurais aimé à ces âges-là, 7-8 ans, pouvoir faire de la méditation. C'est une chance extraordinaire parce que justement, si demain on peut en faire des adultes beaucoup plus apaisés, eh bien effectivement, comme le dit le Dalai Lama, les conflits... et les guerres pourraient disparaître. Enfin, en tout cas, c'est en tout cas, c'est un vœu qui est tout à fait d'actualité.
Mais c'est un changement complet de programme à l'école. C'est une petite révolution dans l'enseignement, puisque l'enseignement ne prévoit pas du tout ce genre de discipline. Elle ne prévoit que d'instruire, mais pas du tout d'apaiser. Donc, je trouve formidable votre projet. Je trouve qu'il faudrait le développer, envoyer votre livre tout de suite au recteur de l'académie pour que Toulouse devienne une ville pilote pour apprendre la méditation aux enfants.
Si Radio Présence peut prendre l'initiative d'envoyer le livre au rectorat, écoutez...
Oui, on pourrait... Enfin, c'est vrai que ce que vous nous racontez est très positif et fait rêver pour apaiser notre société qui, en ce moment, est quand même dans une grande violence pour des raisons... souvent inutile et qu'on ne comprend pas. Donc si on pouvait apprendre tout de suite, non pas au niveau du monde, mais au niveau de Toulouse, à apprendre aux enfants à être apaisés, et en même temps à leurs parents et à leurs grands-parents et à leurs enseignants, puisque tout le monde va en profiter, puisque les enfants ne pourront pas faire seuls leur méditation. Chers auditeurs, nous allons mettre un petit peu de musique zen et de ces pays lointains pour vous mettre dans l'ambiance de notre méditation.
Parole d'auteur. Bélita de Bangy.
Alors, Isabelle Garcia Chopin, je vais en profiter pour présenter vos autres livres parce que « Dessine un sourire sur ton visage » n'est pas votre premier livre. Vous avez commencé par un très beau livre qui s'appelle « Enfant moine », qui se passe au Népal où vous avez rencontré les jeunes moinillons qui étaient dans les monastères tibétains, puisqu'il y a beaucoup de monastères tibétains au Népal. Et ce livre, je crois, a été présenté dans un musée. Vous avez pu le présenter à plusieurs... Expliquez-nous pourquoi vous avez fait ce livre, qui est absolument magnifique aussi.
Là, je ne sais pas si on va avoir le temps. En fait, Enfant moine, rencontre dans l'Himalaya, c'est un travail au long cours photographique, puisque mon métier de cœur, c'est la photographie. Je suis partie au Népal en 2011 pour faire un film documentaire dans les moyennes vallées du Népal, sur les modes de vie dans les vallées. Et sur ma route, comme je dis, j'ai rencontré donc les monastères bouddhistes tibétains et j'ai fait une très belle rencontre avec les enfants moines, comme je les appelle. Et c'est vrai que là, j'ai eu une révélation, un instant d'amour pour l'éternité quand j'ai vu ces enfants qui étaient dans leur tenue de Bouddha, hein, si je puis dire, avec leur petite robe de moine bordeaux et leur tête rasée de près. Et de suite, en fait, j'ai été accueillie très simplement, très ouvertement dans différents monastères et j'ai senti vraiment l'évidence que j'avais un travail à faire d'image et d'écriture justement pour raconter un petit peu leur enfance dans une terre de légende qui est le Népal. Mais après aussi je suis allée au Ladakh qui est une région au nord de l'Inde côté Himalaya entre le Pakistan et le Cachemire où là on est vraiment dans le Ladakh, si je puis dire, on est vraiment dans le bouddhisme, c'est un des derniers bastions bouddhiques en fait, le Ladakh. En fait, c'est le petit Tibet, on l'appelle le petit Tibet. Et là, on se retrouve vraiment sur des monastères qui sont perchés à flanc de colline, dans un désert minéral avec le fleuve de l'Indus turquoise qui coule. Donc vraiment, ce sont des paysages qui invitent à la contemplation. Et c'est vrai que j'ai eu la chance et le bonheur aussi, et le privilège certainement, je me rends compte avec aujourd'hui le recul, de pouvoir rentrer dans tous ces monastères et de partager un repas, de partager des célébrations, ce qu'on appelle des pujas dans les temples, vraiment plonger, ça a été une plongée intime dans leur univers, voilà. Et donc de là est né le livre Enfant moine, et puis après aussi un deuxième livre, mais je ne vous ai pas laissé le temps de le présenter, qui est un album jeunesse, Le Maître des Neiges, dont les illustrations sont faites par Camille Poyer, qui sont vraiment de très très belles illustrations faites à la gouache. Et là, Le Maître des Neiges, c'est un joli conte spirituel sur une des particularités de la philosophie bouddhiste, sur la réincarnation. Voilà.
Alors, en fait, à travers ces trois livres, je trouve que les enfants peuvent être ébauchés à la spiritualité, mais de façon douce, et je trouve formidable que les enfants entendent parler de ce mot spiritualité. Je voudrais revenir au livre « Les enfants moines ». Je voudrais savoir comment vous avez pu communiquer avec eux, puisque vous ne parlez pas népalais.
Je ne parle pas le népali, comme on dit. Alors, c'est vrai que, bon, avec un petit peu d'anglais pour les plus âgés, et puis sinon, je faisais appel de temps en temps à un traducteur, parce qu'effectivement, ce sont des... En fait, les Népalais, comme les Ladakhis, hein, ce sont des... ils sont très timides, en fait. On est dans une région du monde, en fait, on n'exprime pas beaucoup ses émotions. Et les enfants, si vous voulez, il faut du temps pour qu'ils vous apprivoisent un petit peu. Je sais qu'il y a un enfant, par exemple, ça n'a été qu'au bout du troisième voyage qu'il a accepté, et un petit peu par son professeur de tibétain, qui l'a un petit peu motivé pour me raconter un petit peu pourquoi il était là. Donc voilà, de temps en temps, je faisais appel à un traducteur parce que les jeunes enfants ne parlent pas encore anglais, on va dire d'une manière courante, quoi, voilà.
Je voudrais savoir comment vous avez pu communiquer aussi avec les Népalis, puisque vous dites qu'ils sont très timides, puisque je sais que vous êtes partie seule au Népal. Une femme seule dans ces pays, c'est quand même quelque chose d'un peu exceptionnel, même s'il y a eu avant vous.
Oh, il y en a plus qu'on ne croit qui partent là-bas. Mais c'est vrai que, alors, suivant ce qu'on va faire, il faut avoir un guide, parce qu'évidemment, moi, je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que quand je suis partie comme ça, 3 semaines, dans un village, là, à peu près à 8 heures de bus de Katmandou et après à 4 heures de marche à travers l'école. C'est vrai que là, non, là, il faut avoir un guide avec soi. Non, parce qu'il y a quand même des...
C'est le pass, le guide ?
Voilà, j'ai envie de dire, il faut avoir une couleur locale avec soi. C'est plus facile.
Le guide facilite,
surtout que moi, je loge chez l'habitant. Donc forcément, c'est important, en tout cas, au départ, que les choses soient bien établies. On sait pourquoi je suis là. Et puis après, les choses se font d'une manière naturelle, en fait. Parce que je pense que les gens sont capables de ressentir, lorsqu'on est dans une forme d'authenticité et qu'on n'est pas là dans un... but de voyeurisme, de faire des images à tout prix. Voilà. Ce qui est important, c'est... moi, d'abord, j'ai besoin de temps pour créer du lien. Et ça, c'est important aussi dans ma façon de faire de l'image, en fait. Et puis surtout, de rentrer en rapport avec l'autre.
Ils ont ressenti votre authenticité.
Les images parlent d'elles-mêmes. C'est vrai que sinon, j'aurais pas pu aller aussi loin dans ce travail-là. Et puis surtout, envie d'y retourner. Parce que c'est vrai que quand je découvre un pays, j'aime bien revenir. J'aime bien y revenir, en fait. Je suis pas, je suis pas une consommatrice du voyage dans le sens, cette année, je suis allée là. L'année prochaine, je vais aller là. Et puis après, je reviens jamais. Non, parce qu'en fait, on est dans l'humain. Et on rencontre des hommes et des femmes et des enfants, et je me suis rendu compte que ce qui est important pour eux, c'est de ne pas les oublier. C'est ça qui est important. Et je vois avec les enfants, quand je revenais les voir d'une saison à l'autre, je ramenais des photos, en fait, parce que je les prenais en photo, je faisais des portraits. Et c'est vrai que quand ils avaient leur petit bout de papier en couleur, comme ça, mais vraiment, c'était comme s'ils avaient un trésor dans les mains, quoi, voilà. Et ça, c'est très important, parce que vous créez du lien et vous les oubliez pas, même si vous êtes à 10 000 kilomètres.
Est-ce que ces enfants moines que vous avez rencontrés pratiquaient la méditation ?
Alors, certains pratiquaient la méditation. Je dirais que ceux que j'ai rencontrés... Au sein du monastère, oui, bien sûr. Au Ladakh, oui, ils pratiquaient la méditation, même très jeunes. Et au Népal, peut-être un peu moins les plus petits, mais vers l'âge de 9-10 ans... Bien sûr qu'ils commencent la méditation, bien sûr.
Est-ce que vous leur avez montré votre livre « Dessine un sourire sur ton visage » ?
Non, parce que c'est un livre qui a été édité en 2021 et avec tout ce qui s'est passé, la pandémie, etc. Donc je n'ai pas pu retourner là-bas.
Et les autres livres, « Le maître de neige » et « Enfant moine », est-ce que vous avez pu leur montrer ?
Non plus, parce qu'ils sont sortis en 2020-2021, et donc c'était en pleine crise Covid, quoi.
D'accord. Donc, c'est pour le prochain voyage, vous allez leur amener.
Oui, voilà.
Vous allez leur montrer qu'ils sont présents en Europe.
Bien sûr,
parce que
bien sûr.
C'est quand même important aussi. Chère Isabelle, nous allons désormais prendre le livre ensemble et regarder « Dessine un sourire sur ton visage », admirer les illustrations de Naomi Kado et pas à pas, nous allons rentrer dans ce joli livre. C'est à vous, Isabelle.
Alors, j'ai voulu vraiment m'adresser à l'enfant, c'est pour ça que je le tutoie. Et justement, j'ai trouvé très intéressant comme introduction de lui raconter une histoire. Voici l'histoire de ce prince qui, enfant comme toi, découvre la méditation. Alors, je vais lire justement la méditation du jeune prince à nos chers auditeurs et auditrices. Il y a très longtemps, vivait dans un pays lointain, très lointain, un jeune prince. Ce prince, qui avait tout dans sa vie pour être heureux, était sans cesse agité dans son corps et son esprit. Un jour, las de ses troubles, il décida d'aller s'asseoir au pied d'un arbre. Il croisa les jambes, le dos droit, ferma les yeux et médita. Il demeura ainsi un long moment, La méditation dans laquelle il était plongé lui permit de vivre des expériences tout aussi merveilleuses qu'extraordinaires. Il fit la rencontre du vent qui disperse les pensées, découvrit la sublime montagne et bien plus encore. Par la suite, ce qui devait arriver arriva, tandis qu'il était calme et immobile, son esprit devint lumineux. Le prince dessina alors un sourire sur son visage. Il était paisible sur la terre.
Voilà une très belle introduction.
Voilà une très belle introduction. Et le jeune prince, bien évidemment, c'est un petit clin d'œil au Bouddha Shakyamuni, voilà, qui a atteint l'éveil au pied de l'arbre de la Bodhi, le Pilpa Ficus Religiosa.
C'est 600 ans avant Jésus-Christ.
Voilà.
Pour nos auditeurs. Donc la méditation a son histoire.
Voilà, donc là je m'adresse un petit peu à l'enfant. Donc c'est une histoire que peut lire l'adulte à l'enfant, par exemple, une sorte d'introduction où l'enfant peut justement commencer à être assis sur un petit coussin et on lui présente cette histoire. Et après, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, il y a une introduction aussi pour les parents, où là je m'adresse à vous. Où j'explique un petit peu les bienfaits de la méditation pour les enfants, la méditation au quotidien, parce qu'évidemment, comme toute pratique, si on veut avoir un petit des résultats et commencer à pouvoir avoir les bienfaits, il faut de la régularité. Alors, je sais bien que c'est difficile dans nos vies très organisées, très planifiées et puis très denses, d'avoir un petit moment comme ça le matin, ou alors ça peut être après l'école ou après le travail. C'est vrai que dans l'idéal, c'est le matin au réveil. Pourquoi ? Parce que notre esprit est encore au repos par rapport à la nuit que nous venons de passer.
Combien de temps ça prendrait tous les matins ? 5 minutes, 10 minutes ?
Oui, voilà, c'est un enfant, on ne peut pas lui demander beaucoup plus.
Mais le temps de s'installer, le temps de faire le rituel.
Voilà, mais le matin, c'est, si vous voulez, après, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun, comment on est. Si on a très peu de temps le matin, c'est vrai que bon, on ne va pas demander à l'enfant de se lever un peu plus tôt, déjà que c'est précieux le sommeil. Chez les enfants, en tout cas, ils ont besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Mais ce qui est important, c'est effectivement le rituel, parce que les enfants ont besoin de rituels, mais pas que les enfants. Nous aussi, on le voit bien, si on veut tenir dans la régularité, il faut s'imposer un petit rituel, mais un rituel tout en douceur. Ça ne doit pas être une contrainte. Il faut que ça soit vraiment un moment à soi. Quand je médite, c'est un moment pour moi.
Mais le rituel, les rituels, nous en avons quand même tous les matins. Il faut se lever, se laver, s'habiller. On pourrait en ajouter un s'il devait nous apporter une certaine sérénité.
Eh bien, oui, moi je suis pas contre.
Aux enfants et aux parents.
Mais je pense que le rituel, c'est après l'enfant, s'il prend goût à la méditation, je pense que ça sera de lui-même qui va le mettre en place son petit rituel. Et puis ça peut être que quelques minutes. On n'est pas obligé de faire. On peut très bien faire comme ça le matin quelques minutes. Et puis si l'enfant en a vraiment besoin, le soir en rentrant de l'école, avant de commencer les devoirs, il peut très bien à ce moment-là prendre 5 minutes, un peu plus, et faire quelques pratiques, bien sûr.
Ça paraît presque incroyable, tant de sérénité avec des petits exercices. Ça donne envie d'essayer tout de suite pour les grands-parents, les enfants, tout le monde.
Alors justement, c'est ça qui est intéressant dans l'approche que j'ai essayé d'apporter, c'est que j'invite l'adulte à d'abord lire le livre, à se familiariser un petit peu avec cet univers, à commencer justement la posture, le travail sur la respiration, observer nos pensées, et après, à ce moment-là, oui, le partager avec l'enfant. C'est comme ça un petit peu que j'ai essayé de le présenter. Et j'ai pris la métaphore du jardin, dans le sens de planter des graines, parce que c'est vraiment une image qui est très forte, très symbolique. Et donc, découvrir son jardin, c'est l'initiation à la méditation, où je parle justement pourquoi faut-il s'installer, que c'est important de mettre un rituel, de se familiariser, de dérouler le tapis, avoir une petite clochette éventuellement. On peut allumer une petite bougie avec s'il y a la présence d'un adulte, bien sûr, mais ça c'est plus de l'ordre du rituel en fait. C'est pas forcément indispensable. Il y en a même qui mettent un peu d'encens. Bon voilà, ça met une ambiance, si vous voulez. Ça permet de se poser peut-être plus facilement.
Je pense
pour
aussi.
Les esprits qui sont peut-être un peu plus agités.
Je pense, oui.
Voilà, donc on explique tout ça. Et puis après, on va commencer justement à attaquer un petit peu le vif du sujet avec la posture du petit lotus, que j'appelais ça la posture du petit lotus, parce que là, je m'adresse aux enfants. Et voilà, donc là, c'est vrai que la posture, c'est quelque chose qui est très important. C'est surtout, on peut avoir une assise, évidemment, ce qu'on appelle, nous, en tailleur, les jambes croisées, sur un coussin. On peut aussi être assis sur le rebord d'une chaise, avec les pieds bien à plat. On n'est pas forcément obligé, si on a des difficultés, si on a mal au genou. Voilà, on peut très bien le faire sur une chaise. Ça peut être aussi sur un banc. Voilà, il y a plusieurs façons de pouvoir méditer. Il ne faut pas que ça soit un obstacle. Voilà. Et surtout, ce qui est très important, c'est le dos droit. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, le dos droit, déjà, nous permet de retrouver une certaine dignité. C'est important. Nous sommes des êtres de verticalité. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Et le fait de se redresser, si vous voulez, c'est comme si tout d'un coup, on envoyait un signal dans notre esprit. Et pouf, automatiquement, avec la pratique, hein, bien sûr, voilà, ça y est. Je rentre dans une sorte de bulle méditative où là, je m'accorde un moment de bienveillance. Voilà, la méditation, c'est avoir de la bienveillance pour soi et aussi pour les autres.
Alors, nous allons écouter un petit peu de musique qui sera peut-être propre à cette méditation, qui est pour nous tous.
Parole d'auteur. Bellita de Bongi.
Isabelle Garcia Chopin, nous allons reprendre et vous allez nous expliquer un petit peu l'importance de la posture pour faire cette méditation.
Alors, la posture, donc, c'est vraiment, je dirais, la clé de voûte avec la respiration dans la méditation. Et si je peux me permettre, je voudrais vous partager aux auditeurs un texte d'un célèbre maître zen vietnamien qui nous a quittés il y a quelque temps, Chin Atan, à qui l'on doit le village des pruniers en Dordogne. Et donc c'est un texte qui est extrait d'un livre « Conversation intime avec le Bouddha » qui était paru aux éditions Le Courrier du Livre. Ça s'appelle « M'asseoir comme un Bouddha ». Cher maître, je rêve de m'asseoir comme toi. Calme et solide. Je veux avoir une prestance comme la tienne. J'ai appris à m'asseoir le dos bien droit, mais sans raideur, la tête bien droite, ni penchée vers l'avant, ni vers l'arrière, les épaules détendues, les mains posées l'une sur l'autre avec légèreté. Dans cette posture, je me sens à la fois solide et détendue. Je sais qu'à mon époque, la plupart des gens sont trop occupés. Peu de gens ont la chance de s'asseoir tranquillement dans une totale liberté intérieure. Je fais le vœu de pratiquer la méditation assise, de manière à ce que la joie et le bonheur soient possibles durant toute l'assise. Que je sois dans la position du lotus, du demi-lotus, en tailleur, sur les talons, sur une chaise, avec mes deux pieds bien au sol, je suis assis en personne libre. Je m'entraîne à m'asseoir tranquillement, en suivant ma respiration consciente, pour reconnaître et calmer mes sensations et mes émotions. Ainsi, mon corps et mon esprit se posent et s'apaisent. Avec cette pratique, j'allume la lampe de ma conscience. J'unifie mon corps et mon esprit, et je fais naître en moi la sensation de la joie et du bonheur. Je regarde profondément mes perceptions, mes autres formations mentales, donc ça peut être des émotions, des pensées. Lorsqu'elles se manifestent, je contemple leur nature pour voir l'origine de la méditation. Cher Bouddha, je ne vois pas la méditation assise comme un effort à faire qui force et emprisonne mon corps et mon esprit, ou comme un dur labeur capable de me procurer un certain bonheur dans un lointain futur. Au contraire, je suis déterminé à m'asseoir de manière à ressentir la joie et le bonheur et à me sentir immédiatement nourri. Je suis conscient que si chacun dans le monde est capable de s'asseoir calmement, la paix et le bonheur se répandront sûrement sur cette terre. Voilà, j'avais à cœur
de lire ce message.
De lire ce passage-là, parce que je trouve Tina Tang avait justement cette simplicité pour expliquer ce qu'est la méditation. Et voilà, j'avais à cœur de le faire partager aux éditeurs, que finalement, s'asseoir pour méditer, ça doit être quelque chose de très simple et pas une contrainte.
C'est extrêmement intéressant ce texte qui est vraiment pour les accompagnants des enfants et que nous devrions mettre vraiment tous les jours en pratique et même ici à Radio Présence quand nous enregistrons, quand nous nous asseyons sur un fauteuil, nous devrions le mettre en pratique. On va le photocopier pour que tout le monde le mette en pratique en permanence. C'est vraiment un témoignage absolument passionnant de ce moine bouddhiste.
Voilà, alors après, pour continuer un petit peu dans la présentation du livre, donc j'ai essayé pour parler par exemple du souffle, hein, puisque la respiration c'est vraiment très important dans notre méditation, j'ai appelé ça accueillir le souffle. Donc j'ai fait toujours chaque fois des présentés avec une mise en pratique, une mise en situation, parce que l'enfant, il faut que ça soit très accessible pour l'enfant, qu'il fasse de suite des liens. Oui. Donc voyez, pour parler de la respiration, j'ai appelé ça accueillir le souffle.
C'est vrai que ça n'est pas présenté de façon intellectuelle, c'est profond, mais ça n'est pas de façon intellectuelle, il y a un côté ludique dans la présentation qui est agréable.
Voilà, tout à fait, j'ai appelé ça la respiration du papillon. Après, pour justement observer nos pensées, c'est le vent qui disperse les pensées, parce qu'on prend souvent cette image.
C'est très joli, c'est poétique.
Cette image zen, en fait, que nos pensées sont comme les nuages dans le ciel. En fait, ils vont et ils viennent. Voilà, et on est juste dans l'observation. On n'a pas cherché à les faire partir, parce que c'est une illusion, en fait. Hein. C'est une activité naturelle de notre esprit d'avoir des pensées. La seule chose qu'on peut faire, justement, c'est les laisser passer et ne pas s'y accrocher, pour ne pas justement les retenir et finalement rentrer dans un monologue intérieur au cours de la méditation, dont un des buts est justement de pacifier son esprit. Voilà, et puis après...
C'est très loin quand même de notre civilisation, où la pensée est en permanence en marche.
Mais je pense, donc je suis.
Oui, donc, mais c'est excellent, ces exercices sont très bien. Et voilà. Continuons dans la lecture du livre.
Voilà, et puis après, on va passer, une fois que l'enfant va être à l'aise avec les fondamentaux, c'est-à-dire la posture, l'assise, la respiration, et justement observer ses pensées, et puis par là même, ses émotions. Après, nous rentrons dans planter les graines, qui sont des petits entraînements méditatifs, où là, je propose d'autres pratiques ou exercices, mais qui sont toujours très, très ludiques pour que l'enfant, pour varier les pratiques, pour pas que l'enfant aille dans une sorte de monotonie. Donc il y a la marche de la tortue, un pas après l'autre, la marche aux tortues. Donc j'invite l'enfant à marcher au ralenti, parce qu'on peut aussi méditer en marchant.
Bien sûr.
Et donc, voilà, donc là, c'est la marche de la tortue où l'enfant va en conscience, si je puis dire, en tout cas être très attentif à l'inspiration. Il est debout, il va lever le pied du sol, il va le reposer à l'expire. Et voilà, et donc vraiment, là, c'est j'invite l'enfant à prendre conscience de ce corps, qu'il habite un corps et que le corps est bien là, est bien vivant et que le corps n'est pas séparé, en fait, de l'esprit. Les deux fonctionnent ensemble. Voilà, donc là, je vous donne quelques petits noms de pratiques. C'est mon ami l'émotion aussi. Donc voilà, c'est des petites pratiques pour faire, justement, quand l'enfant a une émotion.
Je trouve que tous ces exercices sont vraiment passionnants. Nous allons, pour terminer l'émission, nous allons prendre un exercice que nous allons passer à l'antenne, qui s'appelle la coccinelle. Et dessine un sourire sur ton visage qui a été édité chez Priva Jeunesse et illustré par Naomi Cado va terminer l'émission en écoutant la coccinelle.
Alors c'est le voyage extraordinaire de la coccinelle et alors je tiens quand même à donner une petite précision. Sur le CD qui accompagne le livre, en fait, vous avez 5 pratiques. Et le voyage extraordinaire de la coccinelle, c'est une relaxation. C'est la seule qu'il y a dans le livre. Après tout, le reste, c'est de la méditation. Mais c'est une relaxation un petit peu déguisée parce que c'est une pratique qui invite l'enfant à être attentif aux sensations qu'il va ressentir dans son corps. Voilà, en suivant le voyage de la coccinelle.
Voilà, c'est un bon début pour commencer l'année et pour clôturer cette émission avec Isabelle Garcia-Chopin.
Merci.
Merci beaucoup.
Le voyage extraordinaire de la coccinelle. Je vais te raconter le voyage extraordinaire de la coccinelle qui aime les aventures et les émotions fortes. Avec elle, tu vas découvrir de nouvelles sensations dans tout ton corps. Allonge-toi confortablement, ferme les yeux et prends 2 grandes respirations. Imagine une coccinelle qui volette au-dessus de tes pieds. Lorsque soudain, la voilà qui se pose sur le gros orteil de ton pied droit. Elle regarde tout autour d'elle et se met à marcher. Ouh là là, ça chatouille, ça fait des guilis-guilis par ici. La coccinelle continue et patatras, elle tombe au milieu des autres orteils. Comme c'est drôle ici, ça monte et ça descend, comme sur un manège. Mais rien n'arrête la petite coccinelle à l'esprit courageux. Elle poursuit son exploration et se retrouve sur le dessus du pied. Le panorama est grandiose. Elle prend alors une grande respiration, s'élance à toute vitesse et se retrouve sur la cheville. Waouh ! Surprise ! Elle n'en croit pas ses yeux. Devant elle apparaît une forêt. Il y a des petites herbes aussi grandes qu'elle, de ci, de là. Et soudain, la voilà sur la longue route de la jambe. Recouverte de petites herbes, elle se faufile entre chaque brin d'herbe, par-ci, par-là. C'est alors que se dresse devant elle un gros caillou. C'est ton genou. Elle prend une grande respiration et part à l'assaut. Ouf ! Elle est arrivée sur le sommet. Pas le temps de souffler pour la coccinelle, car devant ses yeux, une longue descente l'attend. C'est la cuisse. Alors elle s'élance et glisse. Le vent qui caresse ses joues la fait rire aux éclats. Et badaboum ! La voilà qui tombe dans le nombril. Alors, elle se hisse sur ses petites pattes et fait quelques battements d'ailes et hop, elle se pose avec délicatesse sur ton cœur. Mais aussitôt, elle se met à trembler de tout son corps et se bouche les oreilles. Mais qui joue donc du tambour ici? Mais oui, ce sont les battements du cœur. À présent, la coccinelle se balade sur une longue piste. C'est le coup. C'est tranquille ici. Mais pas pour longtemps, car devant ses yeux se trouve une drôle de crevasse. C'est le menton. Oups, ça chatouille ici. Elle déploie ses ailes et se pose sur une surface humide. C'est la bouche. Puis elle arrive au pied du nez. Intriguée, elle se penche vers les narines et crie « Ohé, il y a quelqu'un ici ?» Lorsque surgit un courant d'air qui la fait grelotter. Vite, vite, elle grimpe sur le bout de ton nez et court jusqu'au front. Mais sur le front, ça glisse. Elle grimpe, mais glisse à chaque pas. Alors, elle déploie ses ailes et hop! Elle atterrit sur les cheveux, où elle se perd, car ici, c'est une véritable jungle peuplée de grandes lianes. Alors, elle se balance de liane en liane et hop! À l'aide de ses petites ailes, elle s'envole dans les airs. Maintenant que la coccinelle s'en est allée, ouvre tes yeux tout doucement.